France Musique.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Relax, l'émission qui vous donne du peps et de la sérénité à la fois, ce qui est quand même, disons-le, la quadrature du cercle des humeurs. Aujourd'hui au programme, Anne Gastinel en arpeggione, un rattrapage pour Maria Iudina, un clin d'œil à Fischer Dieskau, un portrait du violiste Philippe Pierlot, en disque de légende à 16h, la mythique troisième sonate de Brahms par Vladimir Horowitz et Nathan Milstein, et pour commencer, des petits jeunes combins du talent.
Thank you.
scherzo de la 7e symphonie de Beethoven, c'était le Whist Eastern d'Ivan Orchestra, dirigé par Daniel Barenboim en concert, salle Pierre Boulez à Berlin, il y a quelques mois. Cet orchestre, bien sûr, c'est celui fondé par Daniel Barenboim il y a plus de 20 ans déjà, avec de jeunes musiciens venus d'Israël et d'un peu tous les pays arabes, un lieu de dialogue, d'apprentissage de la musique et de fraternité toute beethovenienne. On entrait donc tout naturellement là, dans les festivités Ludwig 2020, avec cette 7e symphonie, mais il y a aussi au programme le triple concerto en soliste Anne-Sophie Mutter, Daniel Barenboim et puis mon homonyme Yo-Yo Ma. Je vous laisse découvrir tout cela si le cœur vous en dit, c'est une nouveauté Deutsche Grammophon. À suivre une demande de Robert qui adore Rinaldo Alessandrini, ça tombe bien, ici tout le monde se lève pour Rinaldo. De Claudio Monteverdi, Christe Adoramus Te, inutile de traduire je crois, hein. C'était le concerto italiano dirigé par Rinaldo Alessandrini en 1996, on connaît bien cet ensemble qui a fait des merveilles dans le Madrigal, chez Monteverdi, chez Gesualdo aussi, mais ils ont aussi chanté de la musique sacrée, le concerto italiano, le principe toujours pareil, un effectif assez réduit, ça change assez peu pour les motets, ce qu'on vient d'entendre, mais pour les vêpres, qui sont normalement à très grand effectif, et ben là on passe une formation musique de chambre, une voix par partie, avec un tout petit groupe instrumental. Alors, bien sûr, on peut préférer des versions plus opulentes, plus symphoniques si on veut, mais celle-ci quand même, en plus de la transparence, elle a vraiment de la tenue. Thank you. toutes ces voix qui tournent, qui s'enlacent les unes les autres, une musique qui plane. On peut mourir après ça, me disait Antoine. Ou enfin, le plus tard possible, hein, on peut surtout l'écouter le plus longtemps qu'il est permis. C'est un extrait des Vêpres de la Bienheureuse Vierge Marie de Claudio Monteverdi, Laudate Pueri, chanté et joué par les membres du Concerto Italiano à la direction Rinaldo Alessandrini, un disque paru jadis sur le label Opus 111 et qui était le choix du jour de notre ami Robert. Enfin, je dis ami, pardon de cette familiarité, cher Robert. L'auditeur n'est pas tout à fait un ami, mais presque quand même. Bon, allez.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Un petit rattrapage de l'émission de mardi. Vous en souviendrez peut-être, on avait écouté Maria Iudina plusieurs fois et causé de son rapport intense, mystique, presque sauvage à la musique de Jean-Sébastien Bach. J'avais mis de côté, on n'a pas eu le temps de la diffuser, la fantaisie chromatique et fugue. J'ai voulu qu'on y revienne aujourd'hui parce que ce qu'on va entendre là, les 11 minutes de musique de piano sont absolument formidables. Parce que dans les trois parties qui composent en fait cette pièce, toutes les qualités de Maria Iudina sont là. Il y a le naturel improvisateur un peu fou dans la première partie de la fantaisie. Puis il y a l'éloquence, cette grande plainte parlée chantée dans la deuxième partie. Et puis enfin la fugue d'une rigueur qui fait presque peur.
Thank you.
Liberté presque péremptoire de Maria Iudina dans cette fantaisie chromatique et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Tiens, puisqu'on parle de Jean-Sébastien Bach, on sait qu'il relevait d'une véritable dynastie de musiciens qui remontait fort haut dans l'histoire. Cette tradition artistique et sociale s'est poursuivie parfois jusqu'au XXe siècle, des grandes familles de musiciens, on le sait, pour les interprètes, moins pour les compositeurs. Voici par exemple un certain Karen Khachaturian, qui n'était pas le fils, mais le neveu d'Aram Khachaturian, célèbre auteur de Spartacus ou de la danse du sabre. Karen, lui, est né en 1920. Il a commencé, comme beaucoup de Russes, par une musique très soviético-compatible, on va dire, avant de se frotter à l'atonalisme qui, après tout, était, dans les années 50-60, un peu le véhicule du langage commun en musique. Et puis, il a dû finalement revenir à des expressions plus populaires, plus conviviales, moins élitistes, plus consensuelles. Enfin, toute exigence que le soviétique de l'époque imposait à l'art et qui, heureusement, aujourd'hui, ont totalement disparu. Cipollino, un extrait en tout cas du ballet qui porte ce nom, écrit en 1973 par Karen Khachaturian, dit le neveu.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Ah oui, la sonate Arpeggione, c'est une grande œuvre, très grande œuvre, que nous demande d'écouter aujourd'hui Ariane. On a dit oui, surtout dans la version qu'elle a choisie, celle d'Anne Gastinel. On va découvrir ça dans un instant avec à ses côtés, aux côtés d'Anne Gastinel, Claire Désert. Faut rappeler quand même que la sonate pour Arpeggione, c'est de la musique de circonstance et même commerciale. On se souvient qu'un luthier viennois, Johann Georg Stauffer, avait inventé au début du 19e siècle cet instrument nouveau qui était un peu dérivé de la viole de gambe, mais semblable au violoncelle, avec une forme proche de la guitare, d'où le surnom qu'on lui a parfois donné de violoncelle-guitare. Il avait donc demandé, ce monsieur Stauffer, à quelques compositeurs d'écrire pour son instrument, tout simplement pour en faire la promo. Hein. La sonate pour Arpeggione, c'est du commerce de base. Ça permettait à Stauffer de mettre des petits encarts dans les journaux derrière. Monsieur Schubert a écrit une sonate pour l'instrument Arpeggione et les amateurs pourront voir que cet instrument nouveau sonne très bien. Enfin, quand on s'appelle Schubert, promo ou pas, hein, on fait de la musique, c'est toujours de la grande.
Thank you.
L'Allegro moderato qui ouvre la sonate pour arpégione et de Franz Schubert dans son adaptation tardive pour violoncelle. Je dis tardive parce qu'il a fallu attendre les années 1870 pour qu'on s'avise que Schubert avait fait une œuvre superbe pour un instrument qu'on avait complètement oublié, qu'on pouvait peut-être essayer de l'arranger pour le violoncelle. C'était le choix d'Ariane qu'on remercie de nous rappeler à ce bien beau souvenir, non seulement celui de l'arpégione, mais celui de nos deux interprètes ici, Anne Gastinel, cette vocalité absolument sublime de son violoncelle, et Claire Désert au piano, extrait d'un très beau disque Schubert qu'elle nous offrait toutes les deux en 2005.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
C'est toujours bizarre, je trouve, de fêter les anniversaires que les gens auraient pu éventuellement avoir s'ils étaient encore vivants. Bon, c'est bizarre, mais ça permet quand même de se rappeler des belles choses. Tenez, le 28 mai 1925, il y a 95 ans, tout juste jour pour jour, décès certain, Dietrich Fischer-Dieskau, puisqu'on parlait de Schubert.
Kalte Nebel drückt, könnt ich doch den Ausgang finden. Ach, wie fühlt ich mich beglückt, dort erblick ich schöne Hügel, ewig jung und ewig grün. Hätt ich Schwingen, hätt ich Flügel, nach den Hügeln zög ich hin, Harmonien hör ich klingen, Töne süßer Winde bringen mir der Düfte Balsam zu. Goldne Früchte seh ich glühen, winkend zwischen dunkel Laub. Und die Blumen, die dort blühen, werden keines Winters Raub. Ach, wie schön muss ich's ergehen, dort im ewigen Sonnenschein, und die Luft auf jenen Höhen, oh, wie labend muss sie sein. Doch mir wird Stromes toben, wird ergrimmt dazwischen brast. Seine Wellen sind gehoben, und dass die Seelen ihr ergraust. Einen Nachen sie schwanken, einen Narren sie schwanken, aber ach, der Fährmann fehlt, aber ach, der Fährmann fehlt. Frisch in ein Oboe wanken, seine Siegel sind beseelt, seine Siegel sind beseelt. Frisch in ein und ohne Wanken. Du musst glauben, du musst wagen, denn die Götterlein kein Pfand. Nur ein Wunder kann ich tragen in das schöne Wunderland. Du musst glauben, du musst wagen, denn die Götterlein kein Pfand. Nur ein Wunder kann dich tragen in das schöne Wunderland.
Erin Nerung, quelque part entre le souvenir et la mémoire, un lied de Franz Schubert qui était chanté ici par Dietrich Fischer-Dieskau, au piano Gérald Moore, histoire de se souvenir justement que Fischer-Dieskau aurait aujourd'hui 95 ans tout juste. On va fermer cette première partie de Relax avec la seconde rhapsodie pour violon de Béla Bartók. Il en a écrit deux de ses rhapsodies en l'année 1928, avec éventuellement quelques arrangements derrière. La première qu'on connaît bien, faut dire, elle était dédiée, a été défendue beaucoup par Joseph Ziggy qui était très fameux à l'époque. La seconde, eh bien, elle a été écrite pour Zoltán Zekely, excellent violoniste lui aussi, mais peut-être un peu moins connu que celui que j'ai susnommé, si j'ose dire. Et il se trouve que du coup, la seconde, on ne la joue pas tout le temps. C'est bien dommage parce qu'elle donne vraiment envie de se lever avec ce rythme de danse absolument irrésistible. On l'entend ici sous l'archet de Bay Bascrid.
Thank you.
La deuxième rhapsodie pour violon de Béla Bartók, c'était Eivind Hadland à la tête de l'orchestre symphonique du VDR de Cologne en soliste. Baïba Skrid. Vous écoutez France Musique, qui sera bientôt 16h.
Disque de légende, Lionel Esparza, France Musique.
Et si vous en voulez encore du beau violon, eh bien en voici du sacrément beau, du légendaire même. Le piano n'est pas mal non plus.
Thank you.
L'Allegro de la troisième sonate pour violon et piano de Johannes Brahms, c'était Nathan Milstein au violon, Vladimir Horowitz au piano. Les deux s'étaient rencontrés 30 années avant ce qu'on vient d'entendre, en 1921, c'était à Kiev, au moment où il avait vu pour la première fois Horowitz jouer du piano, Milstein s'était exclamé « C'est un ouragan musical !» Ils se lient tous les deux d'amitié, ils ont à peine 20 ans à l'époque, ils se mettent à faire des tournées, des concerts où ils se partagent la scène, l'un joue, puis l'autre, puis les deux ensemble, énorme succès. On les appelle alors les enfants de la révolution dans la Russie qui est toute nouvellement soviétique. Mais ils sentent bien que le vent tourne pour les libertés individuelles là-bas, de très loin. Et à l'occasion d'une tournée européenne en 1925, ils sont alors ambassadeurs culturels de l'Union soviétique. Et bien ils prennent leur liberté, ils quittent l'URSS et s'installent un peu chacun de son côté. Alors tout au long de leur vie, par la suite, ils continueront à se voir très très souvent, resteront grands amis, joueront ensemble beaucoup. Ils feront même un trio avec le violoncelliste Grigor Pietygorsky. Mais alors, il y a un mystère quand même avec ça. Peut-être qu'il y a une explication, j'imagine. Oui, il y en a une, mais moi, je ne la connais pas. Ils n'ont jamais enregistré ensemble. Jamais, sinon, cette troisième sonate de Brahms, c'est-à-dire à peine 30 minutes de musique pour une amitié humaine et musicale de toute une vie. Ah oui, ça, c'est quand même un mystère. Agitato qui referme la troisième sonate de Johannes Brahms, Nathan Milstein au violon, Vladimir Horowitz au piano. C'était en juin 1950 à New York. Le témoignage de l'amitié de toute une vie. Pour aujourd'hui, notre disque de légende à retrouver et podcaster sur francemusique.fr.
Relax. Lionel Esparza, France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.